France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Jeanne-Fabrice Adin. Je viens de finir votre dernier livre, L'impossible famille Rivière. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'impression de lire plusieurs livres en même temps. Au fur et à mesure que je redécouvrais l'incroyable histoire de cette famille, j'ai eu le sentiment de lire une étude psychologique, un livre d'histoire, un dossier juridique, une enquête sociologique et même un roman policier. Vous nous offrez ainsi de multiples lectures de cette histoire tout à la fois complexe, terrible et banale.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Lire, relire, re-relire Pierre Rivière aujourd'hui dans votre Book Club. C'est le nom de ce jeune paysan qui, le 3 juin 1835, égorge sa mère, sa sœur et son frère et qui rédige dans l'attente de son jugement un mémoire pour expliquer son geste, entre autres. Condamné à mort puis gracié, il se suicide en 1840. Dès les années 1970, la question de comment lire cette archive particulière se pose à Michel Foucault et son équipe. La stupéfaction devant ce texte et, je cite, son inquiétante beauté se mêle à des enjeux disciplinaires prégnants à l'époque, philosophie, psychiatrie, antipsychiatrie. Jeanne Favret-Saada reprend le texte au plus près pour y trouver une documentation de la piètre condition féminine du début du 19e siècle en matière de droit conjugal et matrimonial. Elle est notre invitée pour cette enquête passionnante. En fin d'émission, sans transition et comme chaque semaine, on parlera littérature jeunesse. Aujourd'hui, L'Imagier. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Jeanne Favret-Saada.
Bonjour.
L'impossible famille Rivière, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Gallimard dans la bibliothèque des sciences humaines. Bienvenue dans le Book Club, ces sciences humaines auxquelles vous vous rattachez en qualité d'ethnologue puis d'anthropologue. C'est une bonne manière de présenter votre long travail.
Moi, je me suis j'ai jamais fait de grande distinction entre les ethnographes, ethnologues, anthropologues. Ça m'est complètement égal.
Voilà qui est dit. Et en même temps que votre livre passionnant reparaît aux éditions Folio Poche, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, cette édition donc du manuscrit avec l'introduction, entre autres, de Michel Foucault. Il va falloir commencer par parler de ce manuscrit. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? Comment est-ce qu'il est trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Quelle est sa qualité particulière d'archive? Et pour ce faire, on va écouter un extrait d'un film ciné René Alliot, qui se base sur le dossier et le manuscrit de Pierre Rivière.
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. J'ai été témoin de la plus grande partie de ces faits, et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père. Après cela, je dirai comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qui se passa en moi après avoir fait cette action, la vie que je menais, les endroits par où j'ai été depuis le crime jusqu'à mon arrestation et quelles furent les résolutions que je pris. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande. Et j'ai tout écrit du mieux que je puis.
1975, c'est la date de sortie de ce film de René Alliot et en ouverture, lu face caméra, l'introduction de ce fameux mémoire de Pierre Rivière par le comédien Claude Hébert. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? Comment est-ce qu'il est trouvé au tout début des années 70, Jeanne Favret-Saada?
Je crois que c'est Jean-Pierre Péter qui l'a trouvé dans une revue médicale, une revue de médecins aliénistes et hygiénistes de l'époque, ceux qui ont obtenu la grâce de Pierre Rivière d'ailleurs en 1836, et qu'il a été du coup aux archives de Caen voir le texte original. Il s'est aperçu à ce moment-là qu'il avait été édité de façon absolument frauduleuse. Il y avait une partie seulement, d'ailleurs, du mémoire qui avait été imprimé par cette revue et qui modifiait le texte, qui corrigeait le texte de Rivière de façon à le faire apparaître comme un fou et comme un paysan ignorant. Car la thèse de ces médecins, ce au nom de quoi ils avaient obtenu la grâce de Pierre Rivière, c'est qu'il était fou. Mais c'était un parti médical de l'époque qui avait pris ce parti-là, qui avait décidé ça pour entrer dans l'institution judiciaire, pour modifier les jugements et que ce soit des médecins, un corps de médecins, les aliénistes, un tout nouveau corps de médecins qui puisse les modifier.
Dans quelles conditions Michel Foucault s'intéresse à ce manuscrit et quelle lecture il en fait, lui ?
Écoutez, Peter et Foucault travaillaient ensemble, donc Peter lui montre tout de suite le manuscrit, sa transcription du manuscrit. Foucault en tombe amoureux fou et il décide de consacrer son séminaire à ça. C'est à ce moment-là que Jean-Pierre Peter me demande, je travaillais moi-même dans le bocage à ce moment-là.
Le bocage normand.
Normand, où je m'occupais de la sorcellerie. Et il propose à Foucault que j'entre dans l'équipe pour apporter les lumières de l'anthropologie, qui était nulle en l'occurrence.
Nulle dans la lecture faite de ce texte-là.
C'est ça, dans la lecture qu'on pouvait faire. Même dans mon dernier livre, vous pouvez voir que très peu de choses venues des folkloristes permettent de l'éclairer. Et donc je dis, après un temps, je commence par retourner à la bibliothèque du Musée des Arts et Traditions Populaires. Je regarde une nouvelle fois tout ce fonds que je connaissais déjà, concernant la région, enfin. Et je dis, non, il n'y a rien dedans. Et pour finir, je me suis donc... j'ai donc travaillé avec Peter à écrire un texte très général sur cette affaire Rivière.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On va rentrer dans le corps du texte tout à l'heure, mais vous parlez, Jeanne Favret-Saada, d'un texte imprimé dans la tête. Qu'est-ce que c'est exactement que ce manuscrit de Pierre Rivière ?
Parce que Pierre Rivière, dans les trois semaines, 15 jours, trois semaines, où il a décidé qu'il allait tuer sa mère, sa sœur et son frère, mais tout à fait à la fin de l'histoire qui nous est rapportée dans le mémoire, avait idée qu'il devait rédiger un texte et qu'il devait le précéder auprès des juges dans lequel il raconterait l'histoire pour montrer aux juges pourquoi il avait dû tuer sa mère. Quand on l'arrête, il dit « il fallait que cela arrivât ». C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être la victime d'un ordre nécessaire, d'une nécessité dans laquelle il est pour peu de choses. Et il voulait expliquer au juge que sa mère avait requis la justice à plusieurs reprises et que jamais aucun juge ne lui avait dit qu'elle exagérait, qu'elle abusait de sa situation par rapport à son époux. En particulier depuis le jour de son mariage. Car la mère, dès le jour de son mariage, a refusé d'habiter avec le père et qu'après, elle est progressivement entrée dans une colère, un état de rage généralisé vis-à-vis de tout ce qui pouvait représenter l'institution matrimoniale. Pas seulement la personne du mari qui était le contraire d'un homme au lieu, un brave type, au contraire, et toujours prêt à s'arranger avec elle, à faire tout ce qu'il pouvait pour que, comme il disait, pas de bruit pour ça, chaque fois qu'elle faisait un drame épouvantable. Mais par contre, il percevait pas du tout, évidemment, qu'elle en avait à l'institution matrimoniale elle-même, qui fait des époux des êtres fondamentalement très, 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 très inégaux.
On va y revenir parce que, en effet, la spécificité de ce texte de Pierre Rivière, c'est pas simplement d'annoncer ce triple crime et de dire les raisons de ce crime, mais c'est, et c'est la spécificité de votre relecture, Jeanne Favret-Saada, de raconter la vie du couple parental, la vie de cette jeune fille, de ce jeune homme qu'est son père, la vie des paysans dans ce bocage normand, dans la première moitié du 19e siècle. Et la manière dont vous le dites, sa mère va refuser rageusement la condition de femme qui est la sienne. Mais peut-être on reste un instant dans ces années 70 et à la lecture qu'en fait Michel Foucault et que vous en faites, vous, autour, et peut-être aussi des enjeux de cette lecture, puisque il se trouve que vous décidez, près de 50 ans plus tard, Jeanne Favret-Saada, de reprendre le dossier. Et donc, votre livre consiste, entre autres choses, à proposer une relecture critique des premières lectures qui ont été faites. Donc on va un peu discuter de ça, à partir de cet archive de 1973 et Michel Foucault qui commente le manuscrit de Pierre Rivière.
Le fait qu'un petit paysan, se disant lui-même illettré, écrive un mémoire sur le meurtre de sa mère, le fait surtout qu'il n'ait conçu le meurtre de sa mère qu'en fonction de cette écriture, a paru si bizarre que un certain nombre de médecins et un certain nombre de gens de l'entourage de Rivière, en tout cas parmi les lettrés, parmi les notables, parmi les bourgeois, se sont dit « mais ce n'est pas normal, il y a là quelque chose qui est signé du signe de la folie ». Bon, donc le mémoire, jusqu'à un certain point, enfermé Rivière dans la folie ou permis d'excuser le crime de Rivière par la folie. Mais quand on regarde le mémoire et quand les gens de l'époque ont lu ce mémoire de Rivière, ils l'ont trouvé si éblouissant d'intelligence, si bien écrit, si maîtrisé de bout en bout, donnant des preuves à la fois de lucidité, de mémoire, de présence d'esprit, de capacité d'analyse, tel que ils ont dit mais ce n'est pas possible, Rivière n'est pas fou. Et c'est parce que ce mémoire avait cette qualité et cette tenue que finalement on a récusé la folie et qu'il a été effectivement condamné à mort. Et puis après la condamnation à mort, on a dit ah oui mais tout de même. C'est encore quelque chose de tellement bizarre qu'on ne peut pas le laisser exécuter et la peine a été commuée en peine de... Mais je crois que c'est l'appartenance du crime et du mémoire, du crime et de l'écriture au même mécanisme qui a posé la question de la folie et a fait conclure tantôt qu'il était fou, tantôt qu'il n'était pas fou.
La voix du philosophe Michel Foucault en 1973 est la question fondamentale de la folie ou de la non-folie de Pierre Rivière qui replace aussi dans l'état des débats et des conversations au milieu des années 70, Jeanne Favret-Saada, dans la présentation qu'il fait du texte en 73, il dit, Michel Foucault, « Nous voulions étudier l'histoire des rapports entre psychiatrie et justice pénale. Chemin faisant, nous avons rencontré l'affaire Rivière. » En quoi est-ce que la question psychiatrique et la question de la folie ou pas de Pierre Rivière attrapent presque toute la lecture à l'époque, en empêchant éventuellement de voir d'autres choses?
Il se trouve que, en tuant sa mère, au terme du code pénal, Pierre Rivière commettait ce qui s'appelait un parricide. C'est-à-dire, dès qu'on tue un antécédent, hein, ça aurait pu être la même chose s'il avait tué son grand-père ou sa grand-mère, ou son père, il commet un parricide. Le parricide, c'est le crime le plus grave de la volonté de Napoléon, le crime le plus grave qu'on puisse imaginer, à part le régicide, qui est une sorte de parricide et qui est puni de la même peine, c'est-à-dire la mort, et aussi avec une cérémonie infamante pour le meurtrier. Donc, au terme du code qui avait fait la clé du parricide, c'est-à-dire de la contestation de l'autorité, en fait,
ultime, quoi.
Des générations antérieures, le crime maximum, il ne pouvait qu'être condamné à mort, sauf s'il était dément au moment de l'acte. Et en réalité, tous les magistrats qui ont suivi le dossier ne l'ont pas du tout considéré comme fou. Ils l'ont considéré comme un monstre, parce que pour être un parricide, il faut être un monstre. Il faut être hors de la société. Donc ils ont démontré qu'il avait toujours été asocial et qu'il avait toujours été d'une cruauté monstrueuse. Mais son avocat, qui voulait lui sauver, avocat d'office d'ailleurs, qui voulait sauver sa tête, a demandé à un médecin de l'hospice d'aliénés de venir le voir. Et ce médecin, le docteur Vastel, a démontré, avec ses arguments complètement fous à lui, c'est-à-dire qu'il a inventé une généalogie de démons dans la
famille
Rivière, qu'il a inventé, qu'il lui a inventé des cousins fous qu'il n'a jamais eu, il n'a eu aucun cousin, il lui a inventé un oncle fou qu'il n'a jamais eu. J'ai regardé tout l'état civil, je sais que les cousins n'ont jamais existé, et il fondait sa théorie de la folie sur l'hérédité.
Et alors, qu'apporte Foucault dans ça?
Et alors, après, quand les aliénistes de Paris, c'est-à-dire le parti intellectuel grandissant dans la médecine française, qui voulait entrer dans les institutions et qui voulait modifier les verdicts, en particulier criminels, ils ont suivi le docteur Vastel, bien que ses thèses accadraient assez peu avec les leurs. Mais ils ont fait comme si c'était un diagnostic formidable et ils ont publié un texte après que Rivière ait été condamné à mort, confirmant qu'il était fou depuis toujours, qu'il avait tué sous l'empire d'un délire et qu'il était toujours fou, bien que de façon légèrement atténuée. Et c'est comme ça que la folie est arrivée au centre de cette affaire, parce que à part cet avocat et ce médecin, suivi ensuite par les plus grandes sommités médicales parisiennes, personne n'avait pensé qu'il était fou. Et donc, quant au procès, son mémoire a été diffusé, entre autres par le journal local qui s'appelle Le Pilote du Calvados, mais aussi parce qu'il était là, posé sur les tables pour les jurés. La salle a été stupéfaite par l'intelligence de ce texte, par le fait que c'était une histoire très très minutieuse de tout ce qui s'était passé entre les deux parents pendant 20 ans, pendant 22 ans même avant sa naissance.
Oui, et c'est ça qui vous fait presque parler, vous, d'un texte imprimé dans la tête. On pourrait presque dire un texte imprimé dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a en effet un rapport au détail jusqu'à... là, en vous écoutant, je pense au détail de l'allaitement de la mère de Pierre Rivière, de qui s'occupe des souffrances de l'allaitement, du tissu social autour de ce couple parental, si étrange. Mais on l'entend dans cette archive, Foucault, lui, il est ébloui par la lucidité du texte, et peut-être par quelque chose sur lequel on doit s'attarder, Jeanne Favre-Saada, c'est l'intrication du crime et de l'écrit. Il y a quelque chose dans ce mémoire-là qui fait passer l'écrit avant le crime. Il y a une intention de tuer presque autant qu'une intention d'écrire.
Oui et non. Rivière avait observé depuis, il y avait 20 ans au moment du crime, observé depuis quelques années ses deux parents et fabriqué dans sa tête une mémoire de leur histoire. Et quand il a décidé de les tuer, de tuer sa mère, sa sœur et son frère, il a pensé écrire avant de tuer, pour la justice, cette histoire. Et il n'a pas pu le faire. Parce que sa sœur essayait de lire par-dessus son épaule, parce que quand on vit dans une ferme, on n'a pas de chambre à soi. Et donc il a déchiré son brouillon, il a brûlé son brouillon pour que personne ne lise, et il a composé l'histoire dans sa tête. Et quand il a été arrêté, l'histoire était toute prête dans sa tête. Au premier interrogatoire, le juge d'instruction est stupéfait de l'entendre dévider comme ça 22 ans d'histoire. Et il lui dit « Vous pourriez l'écrire, s'il vous plaît, que je puisse m'en souvenir, tout simplement. » Et c'est comme ça que Pierre Rivière a écrit un texte. La première partie de son texte s'arrête la veille du meurtre. Et c'est ça qui raconte l'histoire de sa famille. Et la deuxième partie du texte répond à ce que le juge d'instruction lui avait dit au premier interrogatoire.
Oui, il y a une construction, il pense même la construction de ce texte.
Mais la construction de la première partie, il l'avait entièrement dans sa tête au moment de tuer, avant de tuer.
On est donc en 1973 quand vous participez à ce commentaire, à cette édition du manuscrit redécouvert, relu par Michel Foucault et aussi par toute une scène des sciences humaines de l'époque. Qu'est-ce qui fait, Jeanne Favre-Saada, que autour de 2017, vous décidez de vous rapprocher de ce texte que vous connaissez tant et de lui offrir une deuxième lecture?
C'est que j'avais toujours regretté j'avais pas été contente de ma contribution au volume de Foucault. En même temps, Foucault voulait publier très vite parce que des gens voulaient publier ce texte sans nous. Ils étaient venus au séminaire avec des magnétophones et donc Foucault avait très peur des fuites et il a voulu publier très vite. J'avais pas sans doute les moyens à l'époque de faire ce que j'ai fait maintenant. Il faut avoir passé une vie de chercheur, avoir appris à travailler pour pouvoir le faire. Bon. Donc, j'ai laissé courir et je m'en suis désintéressé après. Mais bon, l'âge et même le grand âge venant, je me suis dit, je vais refaire ma copie. Et je me suis donné, en fait, j'ai passé 5 ans, 4 ou 5 ans là-dedans. Entièrement là-dedans, entièrement dans ce texte et comprendre chaque phrase du texte.
Oui, vous racontez même comment est-ce que vous vous êtes presque mise à l'éditer, à le corriger à certains endroits pour le lire vraiment au plus près de son texte. C'est pourquoi On a aussi plaisir à vous recevoir dans cette émission littéraire parce que vous avez quasi aussi une lecture littéraire de ce texte-là. Vous disiez tout à l'heure, après tout, anthropologue, ethnographe, peu importe, là vous êtes aussi une grande lectrice. Foucault en 73 écrivait « Nous savons que nous avons négligé beaucoup d'aspects majeurs. On aurait pu analyser le merveilleux document d'ethnologie paysanne constitué par la première partie du mémoire de Pierre Rivière. » Ça veut dire qu'il y avait comme, dans cette précipitation, l'idée que, ne voulant rajouter aucun mot, aucun commentaire, il y avait aussi cette idée-là, à un être dominé, on se privait d'une analyse dont vous ne vous privez plus 50 ans plus tard.
Voilà. C'est exactement ça. Je me suis dit, je vais me donner les moyens de le lire. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si difficile. J'ai dû devenir une experte du code pénal, du code civil. J'ai lu quantité de livres dans lesquels on apprenait aux juges de paix, qui étaient une institution toute nouvelle, comment ils devaient effectuer leur métier. C'est ce qui m'a permis de comprendre les scènes dans lesquelles la mère Rivière, Victoire Rivière, va apostropher son mari devant les juges de paix. Pourquoi les juges ont des conclusions tellement paradoxales que jamais ils l'arrêtent, alors que c'est elle qui est en tort, mais c'est lui qui est obligé de payer parce que c'était ça le droit.
On va revenir justement sur cette lecture du droit.
Et donc j'ai dû comme ça acquérir quantité de compétences que j'avais pas du tout. Le premier 19e siècle est en réalité très mal connu. On ne savait pas comment se passait l'école dans les écoles rurales à ce moment-là. J'ai dû faire toute une enquête. J'ai retrouvé les lois scolaires de 1816, etc. Et les commentaires qu'on en avait fait pour que les instituteurs sachent ce qu'on attendait d'eux. Et rien, presque rien.
1816 étant l'époque à laquelle naît justement Pierre Rivière, voilà. Parce que il a une vingtaine d'années en 1835 quand il commet ce triple meurtre. On va nous aussi aujourd'hui s'approcher de ce texte de près. Jeanne Favre-Saada, juste après cette reprise de la chanson Une sorcière comme les autres, la sorcellerie étant aussi un grand sujet d'étude. C'est une chanson évidemment d'Anne Sylvestre, mais elle est reprise ici par Les Ogres de Barbac et Zoé Fleury et Les Ogrillonnes.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaine. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est l'histoire d'une relecture. Aujourd'hui, dans votre book club, on l'a dit, vous faisiez partie, Jeanne Favre-Saada, de l'équipe qui édite et commente en 1973 le mémoire écrit par Pierre Rivière, jeune paysan ayant égorgé mère, sœur et frère. En 1860, en 1835. J'ai vraiment du mal avec cette date, peut-être qu'elle me paraît si horrifique, pour expliquer son geste et plus encore raconter sa famille et la violence qui structure le couple parental. C'est ce texte que vous reprenez 50 ans plus tard pour le relire de près, de très près, et vous attardez particulièrement sur ce qu'il dit de l'institution matrimoniale en cette première moitié du 19e siècle dans le bocage normand. Comment cette femme, la mère de Pierre Rivière, Victoire Brion, fait figure d'exception dans sa manière rageusement rebelle de refuser sa condition, et ce faisant, elle la révèle, et avec elle, celle de toutes les femmes de son époque. On continue de parler de votre enquête textuelle, historique, ethnologique, qui s'appelle « L'impossible famille Rivière ». Et peut-être qu'on peut justement s'arrêter sur ce mot que vous choisissez, l'impossible. Il y a quelque chose du refus, il y a quelque chose qui cogne dans tous les sens. Moi, à un moment donné, j'avais l'impression de voir presque la figure d'une mouche qui se cogne contre toutes les portes contre lesquelles elle pourrait sortir, et qui serait à la fois la mère de Pierre Rivière, mais aussi la condition féminine en tant que telle, bloquée de partout. C'est d'abord l'histoire des refus. Mais avant l'histoire du refus de Victoire, il y a l'espèce d'époque bizarre dans laquelle se nouent les fiançailles et le mariage. Puisque dans ce manuscrit, Pierre Rivière raconte les conditions dans lesquelles son père doit trouver épouse.
Oui, enfin, il y a deux choses. Il y a d'une part qu'il est inimaginable qu'une fille ne se marie pas.
Première chose.
Un jour ou l'autre. Donc sa mère, qui était une jeune fille de 20 ans, de 19 ans à l'époque, devait un jour se marier. Elle ne pouvait pas y échapper, c'est inimaginable.
Vous dites que c'est presque comme l'arrivée des premières règles.
Voilà, c'est à peu près aussi
inéluctable. C'est dans un destin physique aussi fort que ça.
Oui. Donc, elle accepte ce garçon qui, lui, a besoin absolument de se marier, ce qui est beaucoup trop jeune, 20 ans. À l'époque, c'était plutôt 25 ou 30 ans, les mariages. Elle accepte ce garçon qui, lui, a absolument besoin d'échapper à la conscription de 1813, l'année la plus désastreuse pour la jeunesse française.
Voilà, lui, il a d'autres impératifs.
La moitié de sa classe d'âge est morte cette année-là. Et il voulait y échapper, voilà. Donc, les deux familles ont convenu d'un mariage.
Vous écrivez presque dans un sous-titre de chapitre « Épouser ou mourir ». Il y a quelque chose qui tend leur mariage du côté de la question de la vie ou mort, quoi, pour les deux. Donc, ce mariage, il est proclamé, tant bien que mal. Et qu'est-ce qui, d'emblée, se situe du côté du refus ou de l'impossible, Jeanne Favressade ?
Eh bien, le jour de son mariage, après être passé devant le maire et le curé, Victoire Rivière, ça ne s'est jamais produit, j'ai jamais vu ça dans aucun livre d'histoire ni d'ethnologie, refuse la fête des noces. Or, la fête des noces, ça dure à peu près un mois. C'est un ensemble d'arrangements entre les deux familles et toutes leurs relations dans tout le canton, où on échange des cadeaux, des repas, des visites, où toute la jeunesse porte les couleurs de la mariée. Mais tout ça est censé fêter, pour finir, le transfert d'une fille d'un village à un autre. C'est-à-dire, on pourrait dire, si cette fille n'est pas d'accord pour ce mariage, on pourrait dire sa déportation. C'est un déplacement que ça Toutes les fêtes illustrent ça.
Encadre le déplacement, quoi.
Voilà. Et donc, je crois qu'en sortant de l'église, elle s'est tout d'un coup aperçue qu'elle ne voulait pas de ça. On ne sait pas pourquoi. On ne le saura jamais. Puisqu'elle n'a pas laissé de mémoire. Et on ne le saura jamais. Oui. Et il faut dire que ni l'ethnologie ni l'histoire ne nous ont donné les moyens d'imaginer ça, puisque le propre des sciences sociales, c'est toujours de nous faire croire que les règles, tout le monde, c'est fait pour que tout le monde y obéisse. Donc quand quelqu'un se rebelle, on ne le sait pas. Il faut aller chercher dans les archives criminelles, par exemple. Mais une femme a été tuée pour s'être rebellée.
C'est toute la particularité, justement, de ce document du manuscrit de Pierre Rivière. C'est que sa mère est racontée par son fils. Et racontée par son fils avec, évidemment, des biais de récit, puisque le fils regarde la mère avec l'intention, ou après l'avoir tuée, parce qu'il est très en colère, on va y venir. C'est le refus de Victoire, puis c'est pas le seul refus. Jeanne Favressade, il y en aura d'autres, sur le plan sexuel, sur le plan du du travail agricole, sur le rapport aux enfants. Comment est-ce qu'on peut décrire, évidemment là, trop rapidement, ou plutôt comment Pierre Rivière nous aide à décrire très minutieusement l'économie de liens qui se noue entre ces deux-là?
Parce qu'il raconte une série de petites scènes entre ses parents, y compris les dialogues. C'est extraordinaire de précision, qui date peu. Il dit très souvent dans ce temps-là ou un peu plus tard. Mais grâce au fait que je disposais de toutes les généalogies de tous les gens de cette famille depuis le XVIIIe siècle...
Vous savez qui parle.
Je savais, non, je savais quand il... Parce que quand quelqu'un meurt, il le dit. C'était après la mort de mon grand-père. C'était avant la mort de mon grand-père. Donc je dis, ah oui, ça s'est passé en telle année. Ou bien mon père a acheté un champ. Et un érudit local m'a trouvé la date à laquelle il l'a acheté. Donc je sais que ça s'est passé en 1822, juste après la mort du père, de Pierre-Marc du...
Et c'est ça que vous appelez lire le texte de près. C'est vraiment lire le texte, c'est armé de toute une série d'archives, de documents de l'état civil.
C'est lui donner une chronicité que Pierre Rivière n'éprouvait pas le besoin d'expliciter, parce qu'il ne parlait pas à nous, il parlait à ses juges, et il leur disait ce qu'il estimait avoir à leur dire, et ce n'était pas son propos. Mais le mien, c'est évidemment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille.
Alors justement, puisque vous écrivez, Jeanne Favret-Saada, mon projet c'est de déchiffrer nouvellement ce texte. Qu'est-ce que vous y trouvez de nouveau qui vous fait dire que vous êtes en mesure de considérer les textes de loi relatifs à la condition conjugale et matrimoniale comme un texte indigène et de comprendre de près?
J'ai été stupéfaite de voir à quel point l'ethnologie rurale française ne tient absolument aucun compte de l'encadrement juridique.
Du mariage.
Du mariage, de la vie d'exploitant agricole, par exemple. Qui sait que c'est seulement depuis 2006, vraiment la semaine dernière,
avant-hier, quoi.
Qu'une femme peut être chef d'exploitation agricole? On n'imagine même pas. Moi, je le sais parce que quand j'étais sur le terrain dans les années 70,
moi aussi, je le sais,
toutes les jeunes militantes...
militaient pour ça. Parce qu'elles n'étaient que,
ça,
elles que
mais
femmes d'exploitants agricoles.
Elles ont mis très longtemps pour l'obtenir.
Absolument. Elles,
à l'époque, elles étaient aides familiales. Elles étaient, pour la statistique, elles étaient des aides familiales, même si c'était elles les propriétaires, et que le mari est un ancien coiffeur qui s'est fait agriculteur pour s'occuper des biens de sa femme. Et donc ça, on l'ignore, et l'ethnologie rurale l'a ignoré tout le temps.
Donc c'est une manière d'ignorer finalement ce que la loi et les écritures de loi instituent la condition féminine, Jeanne Favret-Saada, et que vous réintroduisez dans la lecture du mémoire de Pierre Rivière.
Oui, mais moi j'y ai été conduite parce que la mère de Rivière n'arrêtait pas d'aller voir des juges de paix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle leur demande? Surtout qu'ils lui, finalement, si on regarde ce qu'ils avaient le droit de faire et de ne pas faire, il ne lui donne jamais rien. Mais elle fait toujours comme si elle avait tout gagné. Et c'est ça qui fait peur à son fils. Et en réalité, parce que quand même, elle était par rapport au code civil, dans une illégalité absolue. C'est-à-dire, elle a toujours refusé de cohabiter avec son mari. Elle a toujours refusé de lui obéir. Elle était en pétard 24 heures sur 24, surtout à partir du moment où, étant devenue elle-même héritière des biens de son père, elle s'est aperçue que la loi ne lui laissait aucun droit de gérer tout ça. Et
parce que
c'était son époux qui entrait, qui sortait, qui vendait, qui signait les contrats. Et elle ne pouvait dire son avis, et d'ailleurs c'est un brave type qui lui demandait toujours son avis et qui faisait ce qu'elle souhaitait, mais c'était lui qui entrait, qui sortait, qui allait gérer des affaires avec des non-parents. Elle était maintenue dans l'espace familial. Et encore une fois, la personnalité du mari, qui était loin d'être une brute, qui a toujours refusé de la battre, n'y était pour rien. C'est le système, c'est une contrainte systémique. Lui, il ne comprenait pas pourquoi elle s'énervait, puisque ça avait toujours été comme ça. En fait, elle a eu une insurrection contre quelque chose, donc contre lequel jamais aucune femme à sa connaissance, n'avait fait d'objection.
Ce que vous qualifiez presque à la fin de votre livre, on y viendra, comme une forme de préscience dans sa révolte et dans sa colère. On va écouter un deuxième extrait de ce film de René Alliot, peut-être pour entendre cette fois-ci la rage de Pierre Rivière. On parle de la colère de Victoire Brion, mais lui aussi est enragé.
Ayant pris ces funestes résolutions, je résolus de les mettre à exécution. J'eus d'abord l'intention d'écrire toute la vie de mon père et de ma mère, de mettre au commencement une annonce du fait et à la fin mes raisons. Ensuite de commettre mon action, d'aller poster à la poste mon écrit et puis de me tuer. Mais ma sœur aimée voulut voir ce que j'écrivais et craignant qu'elle lût cette annonce, je la brûlais. Alors je renonçais à écrire. Et je pensais qu'après le meurtre, je me ferais prendre par le procureur et que je ferais mes déclarations ensuite, que je mourrais pour mon père, qu'on avait beau soutenir les femmes, que celles-là ne triompheraient pas. Autrefois, on vit des Jaël contre des Cirara, des Charlotte Corday contre des Marat. Ce sont les femmes qui commandent à présent. Ce beau siècle qui se dit siècle de lumière, cette nation qui semble avoir tant de goût pour la liberté et pour la gloire, obéit aux femmes. Les Romains étaient bien plus civilisés qui donnaient au mari le droit de vie et de mort sur sa femme. Je pensais que ce serait une grande gloire pour moi d'avoir des pensées opposées à tous mes juges, de disputer contre le monde entier. Je me représentais Bonaparte en 1815. Je me disais, cet homme a fait périr des milliers de personnes pour satisfaire de vains caprices. Il n'est donc pas juste que je laisse vivre une femme qui trouble la tranquillité et le bonheur de mon père.
On entend un nouvel extrait de ce mémoire de Pierre Rivière, ici dit dans le film de René Alliot qui sort en 1975. Jeanne Favre-Saada, vous parlez presque de ce mémoire comme un texte masculiniste. Il n'est pas possible que je laisse vivre une femme qui trouble le bonheur de mon père. Il a une manière vengeresse avant même, ou liée au meurtre de la mère et de la sœur et du frère, qui vient punir ce qu'on a décrit là de la rébellion de la mère.
Oui, mais c'est parce que les juges jamais ne sont intervenus, l'opinion publique, le maire, les autorités locales.
Il veut faire la leçon à la justice, dit-il.
Il veut faire des leçons à tout le monde de rappeler ce qu'est en fait l'idéologie du 19e siècle. Et lui, il a lu quelques livres, il était fou de lecture et de culture. Il a pu lire très peu de livres dans sa vie, mais tous les livres qu'il a lus l'ont confirmé dans son parti pris masculiniste. Et donc, vu aujourd'hui de 2026, évidemment, il a l'air d'un ridicule masculiniste d'aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout ce qu'il était. Il était un pauvre garçon qui a cherché dans les livres
le
comment comprendre cette situation impensable que sa famille, ses parents avaient fabriquée. Et il a trouvé ça. Et ça, c'est des choses qu'il a trouvées la dernière semaine, les deux dernières semaines avant de tuer sa mère.
Trouver ça, c'est-à-dire ?
Ce discours masculiniste qui vient d'être cité dans le film d'Alliot. Ça n'est pas nécessairement ce qu'il a pensé toute sa vie. C'est ce qu'il a pensé au moment de tuer.
C'est-à-dire qu'il fallait rétablir l'ordre naturel de l'inégalité entre les femmes et les hommes, et qu'il y avait dans les sociétés passées qui... Je ne sais pas si on l'a laissé là dans l'extrait qu'on a diffusé, mais il disait toutes ces sociétés qui ont évidemment fait passer la force, la plus grande force masculine au-dessus du corps des femmes, avaient raison, il faut rétablir ça, et c'est l'une des raisons de mon meurtre. En même temps, vous dites... trois cibles plutôt qu'une, il ne tue pas que sa mère, il tue aussi sa sœur et son frère. Qu'est-ce qu'on en fait de ce fait-là, Jeanne Favre-Saada ?
Bon, la sœur, je comprends très bien, parce que c'était un clone de la mère. C'est-à-dire qu'elle soutenait la mère en toutes circonstances, et elle était exactement aussi odieuse qu'elle. Donc, s'il tue la mère, il tue la sœur. Le petit frère, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas. Il m'est resté sur l'estomac, pour tout dire. Je vois bien que dans les dernières semaines avant le meurtre, il a mal joué, mais il avait 6 ans, on a le droit de se tromper. Il s'est trop rapproché de sa mère et trop détaché de son père qu'il adorait. Et donc Pierre Rivière, qui était embringué dans, je crois, pas plus de 3 semaines en tout de folie meurtrière, enfin, d'idée qu'il fallait qu'il tue, ça lui était pas... plus naturel qu'à vous et moi d'égorger quelqu'un. Mmh. Il a égorgé parce que la serpe, c'était le seul arme qu'il avait sous la main. Donc ça nous paraît horrible, mais c'était une arme qu'il savait manier.
Et surtout, c'était pour, si l'on vous suit, et si l'on suit cette lecture, rétablir quelque chose qui devait exister de droit. Vous-même,
oui, oui.
Vous-même finalement, Jeanne Favret-Saada, vous posez la question de la rébellion de cette femme, c'est-à-dire avec quel outil elle s'imagine possible de refuser. Et l'une des hypothèses que vous faites, c'est que peut-être les normes matrimoniales n'ont pas été correctement transmises à cette jeune fille. Peut-être qu'elle ne sait pas exactement comment ça doit se passer.
Non, je pense les normes matrimoniales n'ont pas été, c'est-à-dire ça n'a pas marché pour elle et on ne sait pas pourquoi. Elle a eu la même éducation que tout le monde. Elle a eu l'école où on lui a appris que les femmes devaient obéir, le catéchisme, la maîtresse de couture, la maîtresse de dentelle, les fêtes de classe d'âge où les filles devaient être comme ci et les garçons devaient être comme ça. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi, pour elle, ça n'a jamais marché. Et elle s'en est aperçue le jour de sa noce. Et c'est ça toute l'explosion qui va conduire au meurtre après.
Et qui va tout dérégler. Et vous en faites, à la fin de votre relecture, 50 ans plus tard, après la parution autour de l'équipe de Michel Foucault, une sorte de préscience d'une révolte féminine qu'aurait, elle, trouvé sa traduction dans les dizaines d'années suivantes. On va écouter la fin de votre texte, Jeanne Favret-Saada.
De 1812 à 1835, Victoire Rivière a refusé avec obstination la plupart des obligations légales et d'ailleurs coutumières du mariage, ainsi que les conséquences de l'incapacité civile pesant sur la femme mariée. Il est déjà étonnant qu'une paysanne modeste ait pu se rebeller ainsi à 20 ans dès le jour de son mariage, et plus étonnant encore qu'elle ait non seulement maintenu cette posture, mais qu'elle l'ait radicalisée pendant plus de 2 décennies, alors qu'elle vivait dans la France autoritaire de la Restauration, puis dans celle, à peine plus libérale, de la monarchie de Juillet. Vu depuis notre état de société, toutes ces revendications nous paraissent néanmoins justifiées et presque banales, puisque nous bénéficions de tous les droits qu'elle réclamait. Le principe de l'égalité des sexes a été inscrit dans la Constitution, le divorce est désormais facile d'accès à des conditions libérales et le droit matrimonial a été modifié de fond en comble. Pourtant, ces réformes légales n'ont été amorcées qu'un siècle environ après le meurtre de Victoire Rivière. Le droit matrimonial français est donc demeuré fondamentalement inchangé pendant une très longue période, malgré les nombreux changements de régime politique, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, Troisième République, 2 guerres, celle franco-allemande de 1870 et la Première Guerre mondiale, et des mutations sociales de grande ampleur, l'industrialisation et le développement d'une classe ouvrière, la généralisation du travail salarié des femmes, l'urbanisation de la France. Après quoi, il a encore fallu une 50aine d'années pour retirer peu à peu des textes du droit matrimonial tous les marqueurs de la domination masculine. Envisageons ces changements de point de vue, du point de vue hypothétique, de Victoire Rivière. D'une part, à supposer que la rebelle du début du 19e siècle veuille s'engager dans cette voie, la réintroduction du divorce dans le Code civil en 1884 ne lui aurait servi à rien. Il était en effet réservé aux mêmes situations qu'il avait déjà empêché d'obtenir une séparation de corps en 1835, adultère, condamnation du conjoint à une peine afflictive ou infamante, excès, sévices et injures graves, autrement dit, des fautes graves du conjoint qu'elle n'aurait jamais pu invoquer contre l'irréprochable Pierre Marguerin. Elle aurait donc dû attendre la loi du 11 juillet 1975 et le divorce par consentement mutuel, à supposer que son époux y souscrive.
Et un peu plus tard, dans votre texte, à la toute fin, vous dites « 213 ans après la première protestation de Victoire Rivière contre l'inégalité entre les sexes dans le mariage, nous commençons à peine à saisir l'ampleur du problème qu'elle avait soulevé sans réfléchir. Voilà. » C'est vertigineux, Jeanne Favret-Saada, cette conclusion à laquelle vous arrivez, parce que ça fait évidemment, alors, d'une figure parmi d'autres, mais une femme, un corps qui aurait mis en branle tout un code, toute une forme d'emprisonnement si long à se défaire, dans lequel, voilà, il y a encore tant de femmes sont prises, mais comme une sorte de pionnière des pionnières, Jeanne Favret-Saada.
Oui, mais justement, pas une pionnière.
Oui, parce qu'elle le fait sans conscience.
Elle n'avait pas de préscience et ce n'était pas une pionnière. Elle l'a fait pour son compte. Pour son compte à elle. Elle ne voulait pas que ça passe. Elle ne voulait pas que ça passe par elle, cette affaire-là. Et point.
Et quelle est la différence
avec c'est après qu'on peut le lire en disant « Ah bon, c'est une de nos ancêtres. » Mais elle ne savait pas qu'elle était l'ancêtre de qui que ce soit.
Oui, bien sûr.
Elle jouait pour elle.
Mais on peut la considérer ensuite, parce qu'il faut bien qu'il y ait des premiers qui,
peut entrer dans notre panthéon de femmes, bien sûr.
Il y a quelque chose de...
En acceptant néanmoins qu'une vraie salope puisse être dans notre panthéon.
Alors pourquoi vous utilisez cette injure ?
Parce qu'elle a été... Évidemment, comme elle se rebellait contre l'ordre des sexes, dans le mariage, elle était désobéissante, elle volait son mari, elle le trompait, n'élevait pas certains de ses enfants. On ne sait pas si elle a aimé qui que ce soit, à part son clone de fille et le petit dernier quand elle a vu que le père l'aimait. Et donc, mais c'est normal, c'est-à-dire se rebeller contre ça oblige à être infecte. Et c'est... ça n'est pas une... je ne la juge pas moralement. Il n'y avait pas d'autre issue que d'être ça.
Oui, d'ailleurs, vous faites une grande place à la colère, à la rage, au climat belliqueux. Il y a quelque chose de son soulèvement qui passe aussi beaucoup par une forme de description de ses humeurs que permet l'écriture précise de Pierre Rivière.
Absolument. Parce qu'il a quand même... Même avec les textes que vous avez lus tout à l'heure, dans lesquels il parle au nom de l'ordre masculiniste, quand même, il a inscrit en détail tout ce qui s'est passé.
Et c'est un document qu'on peut presque retourner contre l'intention qu'il a de la voir disparaître et de mettre fin à sa rébellion, parce que ça documente, je le disais, moi j'étais stupéfaite de la précision, c'est-à-dire qu'on voit cette femme accoucher, on voit la manière dont l'homme vient à son chevet, on voit la manière dont elle s'occupe ou pas de ses enfants, comment on travaille au champ, comment... Il y a quelque chose d'une très grande précision qui naît de ce document qui annonce ou justifie son crime. On va écouter Frédéric, auditeur du Book Club, il a lu votre livre « J'aime Fabrice Saada » et vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Jeanne Fabrice Saada. Je viens de finir votre dernier livre, « L'impossible famille Rivière ». Avec vous, on suit la parole de Pierre Rivière et des différents protagonistes qui sont propulsés au cœur de ce triple meurtre. Mais au-delà du fait divers, vous nous amenez à reconsidérer le sort de Victoire Brion. Avec vous, la mère de Pierre Rivière n'apparaît plus seulement sous les traits d'une simple paysanne, têtue et bourrue. Vous nous la montrez comme l'héroïne d'une tragédie antique et même comme une femme moderne qui meurt parce qu'elle a cherché à résister plusieurs années durant aux obligations fixées par toute une société. Ma question est alors la suivante, Jeanne Fabrice Saada, qu'est-ce que la tragédie de Victoire Brion raconte de vous ? Merci pour
J'ai pas entendu la fin.
Ah
de
la je vais la répéter. Merci beaucoup Frédéric, qui donc après ce long témoignage de lecture, merci pour ça, vous demande qu'est-ce que la tragédie de Victoire Brion raconte de vous, Jeanne Fabrice Saada, ou plutôt
de
peut-être,
moi.
Ouais.
Bon. Écoutez, depuis que j'ai été enfant. J'ai refusé d'obéir systématiquement, sauf que j'avais aussi décidé que ni j'obéirais, ni je commanderais dans ma vie à qui que ce soit. Et donc j'ai réussi à me faire une vie de chercheur en n'acceptant pas de diriger des laboratoires, des choses comme ça. Je n'ai jamais commandé à personne et je n'ai jamais obéi à personne. Et de fait, j'ai dû développer beaucoup d'énergie pour ça. J'ai été virée de ma famille. Enfin bon, j'ai eu les difficultés qu'a toute personne qui se rebelle. Voilà, je pense que j'ai...
Merci pour cette réponse faite à Frédéric. Et moi, peut-être dans la question que pose Frédéric, ce qui m'intéresse, c'est le mot tragédie qu'il utilise. C'est aussi un concept que vous convoquez à la fin de votre livre, Jeanne Fabrice Saada, en vous demandant qu'est-ce qu'il y a dans cette... En effet, je parlais de cette image que j'ai eue à un moment donné de la lecture d'une mouche qui va se cogner à toutes les vitres par lesquelles elle pourrait évidemment sortir. On a quelque chose... On a l'impression d'un destin tragique de la condition féminine. Il faut pas le penser comme ça, Jeanne Fabrice Saada ?
C'est-à-dire, j'ai pensé que c'était comme dans la tragédie grecque où les dieux de l'Olympe agitaient les humains d'en haut et leur faisaient faire des choses horribles. Là, c'est l'ordre des sexes, structural, judiciaire, juridique, etc.
Qui pèse.
Qui pèse, et renforcé par la coutume qui dit exactement la même chose. et qui fait que les hommes essayent de se comporter en hommes, les femmes en femmes. Certaines, une femme là a refusé et il se produit cette série de catastrophes épouvantables.
Donc il y aurait presque une sorte de... son refus modifie l'oracle ou confirme l'oracle ?
Elle ne pouvait que mourir.
C'est d'ailleurs le sens du mémoire de Pierre Rivière qui dit qu'il fallait que cela arrivât, c'est-à-dire son crime est comme l'ordre des choses, quoi. Merci infiniment, le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et le Book Club continue comme chaque semaine avec le moment de se pencher sur la littérature jeunesse avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Cette semaine, deux toutes récentes publications vous ont donné envie de revenir sur un genre très classique de la littérature jeunesse, un fondamental destiné aux tout petits, le fameux Imagier.
Et oui Marie, cette semaine je n'ai lu que les images. C'est un genre que l'on a tendance à reléguer un peu trop rapidement à l'étagère des livres utilitaires, celle qui est juste en dessous des manuels scolaires. Ce sont donc ces fameux ouvrages qui associent une image à un mot pour que le petit enfant apprenne à nommer et à reconnaître ce qu'il y a autour de lui. C'est une tradition éditoriale qui s'inscrit dans une longue histoire. Celui que l'on présente comme l'un des premiers est intitulé Orbis Sensualium Pictus, image du monde sensible, et il date du milieu du XVIIe siècle. Son auteur est un philosophe tchèque et il ressemble un peu à un dictionnaire.
Et alors à quand remonte ce qu'on va appeler l'imagier moderne ?
Alors plutôt à l'essor de la littérature jeunesse dans les années 1920-1930. En France, on doit beaucoup à Paul Fauché, le fondateur du Père Castor. Au début des années 50, il publiait le fameux Imagier du Père Castor qui est resté culte. C'est peut-être en partie grâce à lui, Marie, que vous avez su reconnaître un ballon,
si
une chaussure, un arrosoir et même un livre. Ensuite, dans les grands noms de l'imagier, impossible de ne pas évoquer l'américaine Tana Oban. Elle utilise des photographies et innove en créant des associations de couleurs. Encore aujourd'hui, son noir et blanc, son noir sur blanc et encore des couleurs et des choses qui sont tous publiées, qui sont tous sorties dans les années 90, sont dans presque toutes les crèches.
Le genre est tellement codifié, celui de l'abécédaire, qu'il invite à être revisité et on comprend que ça en inspire plus d'une.
Et c'est le cas là, avec ces deux livres en particulier. On commence avec Toute petite encyclopédie. Son auteur, Aurélien Farina, est graphiste et il sort dans quelques jours. Il est construit en 5 parties, les associations, les transformations, les oppositions, les terminaisons et enfin les multiplications. Le résultat final est encyclopédique, mais il est surtout magnifique et ludique. Le dessin est précis, avec sa couleur unique. Il apporte autre chose que le réalisme. Chaque élément en appelle un autre et chaque duo est décliné en positif et en négatif. Alors il y a la clé face au trou de serrure, la chaussure et le ballon, le fil et l'aiguille.
Il y a même l'allumette et le feu d'artifice. Voilà. Ça paraît assez banal de le dire pour un imagier, mais c'est vrai que je le feuillette là et l'image est placée encore plus haut que d'habitude, on a l'impression.
Bah parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien d'autre qu'elle. Il n'y a aucun contexte, il n'y a aucun décor et surtout, il n'y a aucun mot. L'image est pure, détourée, précise, unique, monochrome et tellement bavarde au final. Un étonnant rythme de lecture s'installe au fur et à mesure des paires qui se forment. Boutons, chemises, abeilles, fleurs. Certaines sont attendues. Dans la partie opposition, il y a cet escargot lent face au lapin rapide, mais il y a aussi des paires surprenantes comme ce cactus piquant face à ce doudou doux. On nomme, mais on questionne aussi les représentations, les sensations. Moi, je trouve ça passionnant de voir à quel point la visibilité s'installe.
Presque une sorte de discours, même. C'est une absence de mots qui est aussi le parti pris d'un autre imagier au titre plus mystérieux, « Sans toi, je ne suis pas ».
C'est un titre qui brouille un peu les pistes. Il s'affiche moins comme un livre lié à un apprentissage. Il joue lui aussi sur les associations, mais il s'appuie d'abord et avant tout sur le fait qu'il soit un objet livre. Alors on le prend verticalement, on tourne la première page et le mode d'emploi apparaît en lisant. Un livre à manipuler, à regarder et à lire avec la transparence du papier. Le mot « transparence » n'est pas écrit et se dévoile une fois la page soulevée par transparence. Vous avez compris le système ?
Ouais, j'ai compris, je suis en train de le faire et c'est absolument magique. C'est assez jouissif de voir apparaître le pinceau au bout du trait, le timbre sur l'enveloppe, une fois qu'on monte la page, et qu'on a par transparence, ou encore les barreaux d'une échelle entre deux montants.
Donc c'est un principe qui contourne finalement un peu le système parce qu'il joue sur l'abstrait en ne dévoilant qu'un élément de ce qui deviendra ensuite quelque chose de figuratif. Chaque série se conclut par quelques phrases récapitulatives et poétiques. « Sans toi, je ne suis pas, dit la goutte au nez, l'œil à la larme, la tige à la feuille. Le noir et blanc est aussi expressif qu'épuré et radical. Les objets et les situations prennent vie et s'incarnent dans le quotidien. On tourne les pages, on cherche à deviner, et pourquoi pas à en inventer d'autres. Dans un monde où l'image est partout, ces deux livres subliment complètement son apprentissage et son appréhension. Ils emportent ailleurs, tout en se concentrant sur l'essentiel.
Et ils sont magiques, ils sont magnifiques. Toute petite encyclopédie d'Aurélien Farina paraît dans quelques jours donc chez Thierry Magnier. Sans toi, je ne suis pas de Guillaume Chauchat et Emmanuel Zenner est lui publié aux éditions de La Partie. Toutes les références et les images sont à retrouver sur le site du Book Club, rubrique lecture jeunesse. Merci beaucoup Raphaël Bott, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vous avez un pouce levé de Jeanne Favresse à Ada.
Vous m'avez donné envie de vous lire.
Bah oui, regardez, vous pouvez les feuilleter, Je vous les prête pendant la fin de l'émission qui consiste en un jeu, Jeanne Favresse à Ada. On cherche de la musique dans les textes. On a trouvé une petite évocation musicale, mais c'était trop difficile de la rendre audible dans votre livre. Alors, on a joué avec une auditrice qui s'appelle Anaïs. L'idée du jeu, Jeanne Favresse à Ada, c'est de chercher dans tous les livres de la musique. À chaque fois que nos auditeurs trouvent l'évocation musicale dans un texte, ils peuvent nous envoyer l'extrait du texte et puis on en fait lecture. C'est donc Anaïs qui nous a envoyé via le mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com, un extrait d'un texte qui s'appelle « À quatre pattes ». C'est l'édition française chez Flammarion d'un roman traduit de l'anglais par Nathalie Bru de Miranda July. On se quitte donc avec un extrait de ce texte-là. Comme il était clair désormais que j'allais passer une autre nuit ici, j'ai défait ma valise et rangé mes vêtements dans la commode bas de gamme qui n'était vraiment là que pour faire genre. J'ai suspendu mes tenues new-yorkaises sur des cintres dans le placard et passé mes jupes et mes corsages aux défroisseurs de voyage. Certaines des tenues étaient androgynes, mi-streetwear, mi-masculines. Je les ai laissées dans la valise et leur ai préféré les vêtements plus ouvertement féminins qui mettaient mieux les courbes en valeur. Escarpins et jupes fourreaux, pullover court, robe cintrée, saignant ma taille. Chaque vieil article avait son pendant contemporain. Passé 40 ans, mieux valait porter du vintage avec parcimonie. Je ne tenais pas à ce qu'on me prenne pour une vieille femme restée bloquée sur les tenues des années 1960 de sa jeunesse. Les jeunes en particulier avaient du mal à distinguer les deux. Quand j'ai eu ma première cassette de Patti Smith, Horses, à 22 ans, Patti Smith n'en avait que 49. Mais pour moi, nous n'étions pas de la même époque. Je n'étais même pas sûre qu'elle soit toujours en vie, car la photo sur la pochette était en noir et blanc. Au lieu d'y voir un choix stylistique, comme pour les fripes, j'associais inconsciemment l'album au passé lointain des débuts du cinéma. Pourtant, si on m'avait posé la question, j'aurais probablement réussi à le dater de la bonne décennie. La vie n'est souvent que vapeur d'associations inconscientes qui ne voient jamais la lumière. Heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. On est totalement fasciné.
Veillée était très très chouette aussi.
On est très fasciné par les imagies dont vous avez parlé, Raphaël Bott. Merci infiniment, Jeanne Favresse à Ada, d'avoir été avec nous pour parler de votre livre L'impossible famille Rivière, retour sur un triple meurtre en 1835. Et puis on a parlé aussi de cette édition en poche folio du manuscrit lui-même. Au son, c'était Olivier Arnay, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier, Cyril Marchand, Julie Gastal et Alexandra Laïbegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.